Ville PM. La voix est libre.
Je ne suis plus souverainiste, je suis nationaliste encore, mais je pense que la souveraineté n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je suis un pragmatique qui dit allons aux enjeux de société importants. Puis s'il faut faire évoluer le Canada pour qu'il ressemble plus aux valeurs et aux perspectives des Québécois, ben il faut le faire. Parce que ce qui va être bon pour le Canada va être bon pour le Québec.
Là. Voici Luc Lavoie.
Donc, c'était Régent Hébert il y a un instant. Luc Lavoie, bonjour.
Salut, Bernard.
Alors, je vais prendre des appels. Je vous le dis tout de suite, les auditeurs. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec la logique que Régent Hébert vient de vous exposer? Donc, le droit d'évoluer, le droit même de changer d'idée, le droit de se présenter pour les libéraux alors que tu as été péquiste? Ou est-ce que vous le jugez plutôt sévèrement puis vous pensez que c'est un vire-capot, etc., etc.? Est-ce que c'est positif ou négatif à vos yeux? Mais d'abord, Luc, je veux ton opinion.
Ben, mon opinion, elle va porter sur l'entrevue que tu viens de réaliser avec lui, qui était fort intéressante, pour une raison bien simple. Je le connais presque pas, Régent Hébert. Je connaissais évidemment son nom, puis son temps au gouvernement était si court que j'ai pas vraiment de souvenir de ce gars-là. Alors, je l'écoutais, c'est clairement quelqu'un de très solide, c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien, qui a des convictions profondes. Je note aussi qu'il représente fort bien un phénomène qui est partout à l'échelle de l'Occident dans les démocraties, qui est la perte d'importance des partis politiques dans les choix électoraux que font les gens, tant pour aller voter que pour être candidat. Évidemment, t'as le cas patent qui est celui d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de parti, il n'y avait pas de parti. La République en marche, il a inventé ça.
Mais il était passé par le Parti socialiste auparavant.
Oui, il
venait
voilà. du Parti socialiste.
C'est ça.
Donc, il y a ça, il y a un peu de ça.
Legault est passé par le PQ, puis il a fondé la CAQ.
Oui, c'est ça. Hein? Et puis, Hébert dit, moi, je prends acte, en gros, ce que je comprends, je prends acte du fait que ce n'est plus à l'ordre du jour, la souveraineté. Et surtout, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je me demande parfois s'il y a beaucoup de péquistes qui pensent à ça, c'est que les sondages montrent que les 18-34, ils suivent pas. Ils suivent pas du tout, puis lui, il l'a souligné. Je trouve ça extrêmement intéressant. Maintenant, c'est un gars qui a une idée très, très nette de ce qui doit devenir des soins pour les personnes vieillissantes, parce que notre société est vieillissante.
Oui.
Je crois comprendre, et tu m'en as parlé parce que hors d'onde, parce que tu le connais bien, que c'est un gars qui a une idée très, très précise de ce qui doit être fait.
C'est le combat de sa vie, c'est le projet de sa vie.
C'est le projet de sa vie, et en fait, il est valable, parce que je dis pas que c'est sa solution qui est la meilleure, mais tu sais, en 2030, il va avoir un Québécois sur quatre, c'est toi qui me le soulignais tantôt, qui va être âgé de 65 ans et plus.
C'est du stock, ça.
Alors, je veux dire, ça n'en prendrait des maisons des aînés, puis des CHSLD, puis tout ça. Puis 2030,
pas.
Bernard, c'est pas dans 75 ans, c'est dans 10 ans.
On peut pas avoir des maisons des aînés, puis des CHSLD, puis tout ce monde-là. La solution, c'est qu'il faut rester à la maison le plus longtemps possible.
Maintenant, tout ça, c'est intéressant. Maintenant, comme saut, comme plongeon, c'est assez extraordinaire, là, je veux dire. Il s'en irait à Ottawa pour réaliser un projet dans le domaine de la santé qui est une juridiction clairement provinciale, n'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Et qui a fait l'objet de combats entre les provinces et Ottawa depuis qu'Ottawa s'est mêlé du secteur de la santé en participant à son financement et en y posant des conditions. Puis les fameuses conditions ont toujours été au cœur de débats déchirants, pas seulement avec le Québec, mais avec le reste du pays. Alors, tu pars d'un gouvernement souverainiste, c'est ça qu'il a fait. Là. Il était le gouvernement séparatiste de Mme Marois, là, même que toi. Là. Mm-hmm. Puis après ça, tu sautes à ce qu'il y a de plus fédéraliste, M. Trudeau et son parti, le Parti libéral du Canada, pour aller réaliser quelque chose qui est dans les juridictions provinciales. J'avoue que c'était un gros saut. Là. Tu sais, c'était un joyeux plongeon. Maintenant,
avec quelques
dans le fond, là,
salto.
Et ça aussi, ça vient nous rappeler une chose. Cette histoire des juridictions, puis des ceci, puis des cela, je pense que ça touche plus les gens. Je pense qu'ils s'en balancent. Je pense que le contribuable est en train d'accepter ou de pleinement réaliser qu'il est une personne et qu'il paye des taxes au fédéral, au provincial, au municipal, puis des taxes sur la consommation, puis des taxes, puis des taxes. Puis il dit, regarde, moi, je le sais pas, là, mais le projet de Hébert, il m'intéresse, puis juridiction de ci, juridiction de ça, je m'en balance.
Ça se peut qu'il y ait de ça. On va aller prendre quelques appels. Martin, d'abord. Bonjour, Martin.
Bonjour. Écoutez, je pense que M. Lavoie vient de très bien résumer ma pensée. Écoutez, la dernière fois, je pense qu'on l'a vu un saut aussi burlesque. C'était Guy Bertrand qui était un souverainiste, qui était devenu capitaine Canada, puis qui est redevenu souverainiste. Écoutez, c'est ce qui était assez incroyable, c'est que monsieur Hébert, je comprends la noblesse de son projet et tout ça, mais il va aller s'associer à un gouvernement qu'on sait fort bien que quand la cloche de l'endettement des agences de cotation va sonner, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choquer les provinces, excusez l'expression, et ça va amener des coupures en santé. Comme on a vu sur Paul Martin et que c'est Lucien Bouchard qui a fallu qu'il fasse la job sale. Écoutez, je comprends le monsieur, il y a des convictions, mais écoutez, ça a juste aucun sens là. Mais... Puis là, dans le fond, c'est le mélange des juridictions, des compétences. C'est ce qui crée un peu le malaise qu'on a dans les Canada, c'est que le fédéral sous Trudeau ou en général veut tellement prendre de pouvoir dans les provinces en respectant pas les provinces. Ça fait puis on se demande pourquoi il y a des chicanes, mais l'artisan de la chicane, c'est le Parti libéral, puis ça, c'est depuis le début de la Constitution.
Merci, Martin, pour l'appel. On a Daniel maintenant. Bonjour, Daniel.
Ben, bonjour, merci de votre émission. Et, écoutez, je vais être très bref. Je suis tout à fait d'accord avec la position de M. Hébert, parce que on se souvient, on a dû changer notre avis. Moi, je suis un ancien péquiste qui est devenu nationaliste, mais je suis rentré pour la CAQ. Et quand j'ai changé de côté, parce que j'étais attaché politique d'un député qui était ministre du Parti québécois, on m'a traité de traître. Tu crois ou tu meurs.
Vous étiez député de quel ministre? Vous étiez adjoint, dis-je, de quel député ministre?
Je ne voudrais pas le dire.
Ah, mais, okay. Très bien.
Ministre qui était important au sein du Parti québécois.
D'accord.
Et on m'a traité de traître parce que j'avais décidé d'adhérer à ce moment-là à l'ADQ. Alors pour moi, ça, c'est un cheminement personnel. Je suis allé à l'université, puis c'est là que j'ai cheminé. En disant, bon, mais je pense qu'on est mieux être nationaliste, mais aussi à l'intérieur du Canada, puis défendre nos droits. Il y avait le déséquilibre fiscal que le Bloc québécois a fait une campagne électorale. Mm-hmm. Le Parti conservateur a réglé le problème de déséquilibre fiscal. Il a reconnu que le Québec, c'est une nation. Alors, moi, je me dis, à l'intérieur du Canada, on peut très bien défendre nos idées, nos D'accord. programmes, puis on peut très bien cohabiter ensemble. Moi, j'aime mieux être 37-38 millions. 8 millions.
D'accord, merci.
Et moi, Bernard, merci. Là-dessus, sur les propos de monsieur, ça me permet d'ajouter quelque chose que je sens intimement depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, c'est que je pense que le projet souverainiste est en pleine mutation. Je pense qu'il avait été conçu comme une rupture. Après ça, on a parlé de souveraineté association, mais fondamentalement, le rêve, c'était que le Québec se retrouverait aux Nations Unies, mm-hmm. bon, puis serait un pays indépendant avec sa propre diplomatie et tout ça. Et je pense que sous la CAQ, sous l'impulsion de la CAQ et du discours politique qu'ils tiennent et des actions politiques et des gestes qu'ils posent, on est en train de voir le souverainisme... pour
devenir de l'autonomisme?
Devenir une sorte d'autonomisme, puis même, c'est que les gens sont en train de se rendre compte que peut-être que d'être dans une grande entité qui nous permet d'avoir une monnaie stable puis un certain nombre d'affaires de base comme ça, pourvu qu'on a le contrôle sur nos affaires chez nous au Québec, il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. Et qui pense, et la CAQ a ramené ça, c'est-à-dire cette idée que, avec Ottawa, là, c'est une relation qui est une relation de friction à peu près permanente, mm-hmm. et c'est comme ça que le Québec maintient le contrôle sur un certain nombre de choses. Je pense que, mentalement, il est en train de se passer une mutation de ce type-là au Québec.
D'accord, d'accord. Ça se peut fort bien que ce que tu dises soit effectivement en train de se produire. Juste avant d'aller à Carole, bougez pas, Carole, quelques textos. Si on ne pouvait changer de perspective, la CAQ ne serait pas au pouvoir, la CAQ n'existerait pas, me dit un auditeur.
C'est vrai du PQ dans son temps.
Quelqu'un d'autre, Marie-Josée, me dit « Moi, je crois que l'on peut changer d'allégeance pour promouvoir une option de vie. C'est ce que je crois que M. Hébert fait. » Quelqu'un d'autre me dit « Je suis d'accord avec lui, avec Régent Hébert. Plusieurs personnes qui ont cru en la souveraineté se rendent compte que ce n'est plus d'actualité. » C'est Éric qui nous dit ça. Quelqu'un d'autre me dit « Non, moi, absolument pas d'accord. Si tous ceux qui défendent une cause l'abandonnaient quand ça va moins bien, on n'irait pas loin. Cependant, je ne nie pas sa compétence et ce qu'il veut faire dans le secteur de la santé en parlant de Régent Hébert. »
Mais que ça fait 50 ans que ce combat-là dure sur le plan politique. Il ne faut pas que les gens disent « Ah oui, quand ça se met à aller mal, ils sautent. » Non, écoute, ça fait longtemps, là.
Carole, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je veux juste dire que c'est pas parce que la souveraineté est moins populaire qu'elle est moins nécessaire. Pour moi, depuis 1995, il n'y a aucune raison, j'ai aucune raison de changer d'idée là-dessus. Puis je trouve ça dommage que M. Hébert, qui a quand même eu des principes pendant un bout de temps, marche littéralement dessus, là, parce que c'est de la centralisation au niveau de la santé, ça. Fait que je trouve que c'est, pas une mode, la souveraineté, puis contrairement à ce que dit M. Lavoie, puis M. Lavoie, j'en profite pour vous dire que vous méprisez énormément de vos auditeurs quand vous parlez de, du désir de souveraineté comme d'une poussée d'acné. Vous m'en faites faire une quand vous dites ça.
Ah oui, moi, ça passe, vous allez voir que ça passe.
Bien, regardez comment vous êtes méprisant.
C'est, non, non, mais vous me dites que vous en faites vous-même. Je vous dis, faites-vous-en pas, madame, ça passe.
Bon, excusez, OK, vous avez mal compris. Mais, je veux dire, c'est quand même, la souveraineté, là, c'est noble, le désir de souveraineté.
C'est vrai.
Et je trouve que le vrai rêve, la vraie utopie, c'est d'imaginer qu'on va faire changer le Canada, puis c'est d'imaginer qu'on va se faire respecter un jour par le Canada, puis c'est d'imaginer qu'un jour, ce pays-là va être un vrai, beau, grand pays uni. Les deux solitudes sont là pour rester.
Très bien.
Ça qu'on prend nos utopies où on veut bien.
Merci. Mais
en tout cas, moi, je trouve ça dommage parce que j'aimais beaucoup M. Hébert. Je le trouve encore brillant. Je le trouve encore... je trouve que son but est noble, mais
il ne croit plus à votre patente. Il croit plus à votre patente.
Vous parlez d'un pays souverain comme d'une patente.
Allez
demander aux États-Unis et à la France si on a le goût de renoncer à leur souveraineté pour voir. C'est pas une patente, la souveraineté. Moi, comme parent, M. Lavoie, là, j'ai montré à mes filles l'autonomie, l'indépendance, des belles valeurs.
J'ai montré la même chose aux miennes, madame. Je leur ai montré exactement la même chose à mes filles.
Ben oui, mais comme nation, on peut-tu leur donner...
C'est quoi cette affaire-là de nation? Qu'est-ce que ça vient faire dans ça? Mais donnez-moi la paix sociale, la prospérité, un cadre qui permet à mes enfants d'évoluer, de s'épanouir, de découvrir le monde et d'avoir une belle vie. Le reste, je m'en balance. Moi, l'autel de la souveraineté, ça m'indiffère totalement.
Mais visiblement...
Ben pour moi, en tout cas, j'aime ça, mener ma barque, mener mes affaires.
Moi aussi.
J'aimerais ça que mon peuple fasse la même chose au lieu de donner la moitié de sa paye au peuple d'à côté pour qu'il l'admire.
Ben attention, merci, madame, là, Carole, on envoie 48 milliards à Ottawa, puis on en reçoit 62, là, pensez-y. Hein.
Merci, Carole. Je vous ai laissé vous parler. Hein, tu t'es fait parler dans le casque.
Ah, je te dis que je suis...
Non, mais on a des bonnes auditrices et des bons auditeurs. C'était très articulé, tu peux ne pas être d'accord, mais c'était très articulé.
C'était un paquet de clichés, mais je...
Comment c'est un paquet de clichés? C'est pas vrai, ça.
Des fois, on écoute ça, puis on a l'impression d'entendre...
Non, mais tu peux trouver que ce projet-là n'est plus d'actualité. Mais dis-moi pas que ce qu'elle a exprimé, ça n'avait pas de sens. Ça avait du sens.
Oui.
C'est juste que c'est en perte de vitesse en termes d'appui.
Dans une grille d'analyse donnée, ça peut avoir du sens. Je ne partage pas la grille d'analyse.
Exact.
Je ne la partage pas.
Mais ce projet-là reste honorable.
Honorable. Qu'est-ce qui est honorable?
Tu peux dire qu'il...
Moi, j'ai un pays ici qui s'appelle le Canada. Laisse-moi le dire, là, ce sera pas bien long.
Ouais.
Okay? Puis moi, là, je suis pas en train d'avoir des érections en regardant le drapeau canadien flotter au vent. Je m'en balance, OK? Je m'en balance tout autant que le drapeau du Québec puis que le drapeau des États-Unis. Ça représente, c'est le symbole de quelque chose. Mais j'ai un pays qui me permet de vivre dans la liberté, la prospérité et la paix sociale.
D'accord.
De vivre mes idéaux, mes idéaux étant des idéaux de liberté, étant des idéaux d'ouverture.
Et tout
d'esprit.
Ça, c'est très honorable.
Et tout ça, je ne sais pas, c'est à d'autres de juger. Mais quand quelqu'un arrive et qui dit, puis la nation, ben c'est parce que moi, je vois pas ça. Moi, je vois pas l'État comme un corps mystique. Moi, je vois ça comme une façon de s'administrer entre humains pour faire en sorte que nos libertés, notre talent et notre créativité puissent s'épanouir. C'est ça, ma vision.
Mais c'est très bien.
Et je suis très fier d'être Québécois en passant.
Et c'est très bien.
Mon Dieu, Bernard, t'es rendu donc bien calme.
Alors, je te dis que...
Quand est-ce que tu vas voir la lumière?
Vision,
quand est-ce que tu vas voir la lumière, Bernard?
Je te dis que ta vision, elle est honorable, elle est légitime. Tu viens de l'exprimer avec beaucoup de clarté et je dirais même d'éloquence. Et ce que je te dis, c'est qu'à côté de ta vision, il y en a une autre. Enfin, il y en a plusieurs autres, mais on peut dire, si on veut schématiser...
Puis il y a un combat entre les deux.
Voilà, puis elle n'est pas moins honorable, elle n'est pas moins légitime. Il y a des très bonnes raisons pour la faire. Mais pour le moment, et là-dessus, je pense qu'on va s'entendre, les Québécois, de plus en plus, veulent délaisser ce terrain-là pour aller ailleurs.
Oui, mais le combat qui a opposé fédéralistes et souverainistes ou séparatistes depuis 50 ans, n'est-ce pas, est un combat qui a été joué durement des deux côtés.
Oui.
Je sais pas combien de fois encore aujourd'hui sur ma page Facebook, il y a des gens qui viennent me demander, mais tous les jours, pourquoi je suis anti-Québécois? Puis là, tu te dis, mais comment je peux être anti-Québécois?
Non, on s'entend.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire.
Oui, je comprends. Pour moi, tu peux être fédéraliste et être pro-québécois.
Mais
là,
complètement.
Très bien.
Mais
oui.
Absolument.
Ben
puis ma culture, c'est le français. Ben puis quand je rêve la nuit, c'est en français. Là.
Bien sûr, absolument. Non,
mais toi, Bernard, tu vas voir la lumière éventuellement. Si tu me donnais la parole, là, ben, au lieu de me la couper comme tu as fait à midi à 1h moins quart,
et toi,
là, Bernard, peut-être que je réussirais à faire de toi quelqu'un qui pourrait aller mener son combat idéaliste à d'autres niveaux.
Ah, tu vois, il y en a un qui dit, j'ai écouté la vidéo de Drainville sur si on est été indépendant sur YouTube. C'est une des raisons pour lesquelles je suis souverainiste à 23 ans. Et oui, je suis un millénial. Tu vois? Bon. Tu iras l'écouter.
Il y en a.
Tu iras l'écouter. Tu vas voir. Il y a plein de bonnes affaires là-dedans. Bon, on arrête ça.
Mais attention, 23 ans, peut-être son acné n'est pas parti.
Ah, t'es... Luc. Attention. Oui. On s'arrête.
Moi, je n'ai plus.
Moi, mais ça fait pas longtemps. Dans ta tête, en tout cas, ça fait pas longtemps. Dans un instant, la fin de session à l'Assemblée nationale, les libéraux puis les caquistes, justement, se crêpent le chignon.
Drainville PM. La voix est libre.
Un tiers de ministre. Depuis le départ, c'est ça aussi. C'est la réalité, c'est qu'il doit se partager entre son rôle de leader, entre le projet de la laïcité et le projet d'immigration, qui sont des projets phares de ce gouvernement. On n'est pas capable de faire les travaux, pas parce que il y a pas de temps, mais parce qu'il y a une personne qui est le goulot d'étranglement dans ce cas-ci.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était Dominique Anglade, donc l'ex-ministre libéral.
Elle résumait bien l'essence de l'affaire.
Elle parlait de Jolin Barrette.
Puis les gens disent de lui, écoute, il en a mis trop sur les épaules. Le gars a l'air de devenir impatient. Il veut absolument passer avant l'ajournement d'été qui est prévu pour le 14 juin, la semaine prochaine, sa loi sur l'immigration, sa loi sur la laïcité. Puis il y a bien de la pression pour passer sa loi sur les taxis aussi, parce que c'est quasiment une condition sine qua non de M. Pelado quand il a dit « je rachète », puis là, la transaction a été confirmée. Il dit « je ne peux pas fonctionner s'il n'y a pas la nouvelle forme de tarification dynamique qu'on appelle. Mm-hmm. » Alors. Là, la petite chicane habituelle, écoute, moi, je suis apolitique depuis que, je sais pas, moi, depuis les années 70, là.
Suis la politique, moi, oui.
Depuis ce temps-là, là, à tous les fois qu'une section, une session arrive à sa fin, il y a un combat quelconque. M'a te fait chanter, m'a te volé 2 jours de vacances si tu votes pas comme tu veux que je vote. Ah, dadi-ta-ba-ba-ba-ba-ba. Mais regarde, ils l'adopteront en septembre, ou alors qu'ils disent tout de suite, là, qu'ils disent, regarde, je vous annonce que nous ne mettrons pas fin aux travaux de l'Assemblée nationale. Tant qu'on n'aura pas adopté 1, 2, 3, 4. Puis si ça nous mène à mi-juillet, ben ça nous mènera à mi-juillet. Mais, si
mais c'est parce que les députés de la CAQ, là, ils veulent partir en vacances le 14, eux autres aussi, tu sais.
Ben oui, mais alors...
Fait que tu sais, il y a du bombage de torse, là.
Il y a du bombage de torse, mais peut-être...
Tout le monde fait le petit coq, ou j'ose pas dire le féminin du coq, parce que ça va, tu comprends? Mais, mais tout le monde est comme grimpé sur ses ergots, on va dire, puis il fait cocorico, puis ouais. Là, tu sais, menace les autres, mais dans le fond, tout le monde veut sacrer son camp.
Tout le monde veut sacrer son camp, mais ils vont-tu être capables d'adopter laïcité, immigration, réforme du taxi
non.
Et quelques...
Non.
Non. La réponse, c'est non.
Non.
Bon, ben alors, pourquoi ils n'arrêtent pas de niaiser?
Ben parce qu'ils sont en rapport de force.
En rapport.
Ils négocient. Mais non, mais ils négocient.
Ils négocient quoi, Bernard?
Ben, ils négocient combien de projets de loi l'opposition va laisser passer. C'est toujours de même, tu l'as dit. Moi, je le sais, je l'ai vécu. Tu négocies avec l'opposition, dans ce cas-ci, l'opposition libérale, mais là, c'est ce qui complique les affaires, c'est que tu as deux autres partis d'opposition.
Ben ouais, mais si j'étais Legault...
Tu fais des deals.
Si j'étais Legault et Jolin Barrette, son...
Moi, je pense qu'ils vont être obligés de laisser faire le projet de loi sur l'immigration s'ils veulent faire passer la laïcité.
Ça m'apparaît plausible. Mais...
D'après moi, l'immigration, ça va aller à l'automne prochain. À moins qu'ils fassent siéger la Chambre cet été.
Ben, à moins qu'ils disent, je passe ces trois-là, puis je suis désolé, mes députés sont pas plus contents que les vôtres, chers collègues, mais on va passer ces trois projets de loi-là avant de prendre nos vacances. Point.
Fait qu'on dépasse le 14.
Ouais. Puis à vous de décider. De l'autre côté, quand elles vont. Parce que nous, on a la majorité. Alors, en bout de ligne, on peut toujours écraser le. On peut
l'autre
toujours
affaire,
mettre le baillon mercredi prochain, puis bang, il passe 2 jours de suite.
Mais tu sais qu'il pourrait faire.
Il pourrait faire
2 baillons d'affilée. Ouais. Moi, je pense que c'est un petit peu trop, là, 2 baillons d'affilée.
En fait, même un baillon, c'est beaucoup.
Mais surtout un baillon, surtout sur un sujet comme la laïcité, là, c'est pas évident.
Et qui va rester marqué dans l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, je veux dire, tu vas pas mettre un baillon en principe sur quelque chose comme ça.
Non.
Et même l'immigration, c'est un peu beaucoup touché.
Oui.
C'est surtout l'approche qu'ils ont choisie qui est assez agressive.
C'est 2 sujets qui sont délicats. Idéalement, des projets de loi qui ne seraient pas adoptés en baillon. Idéalement, Luc.
Même qu'il faudrait prendre un autre mois, s'il le faut.
Mais à ce moment-là, dire aux députés, bon, ben très bien.
D'ailleurs,
tu sais que la loi 101...
Il ne se rend pas compte, Jolin Barrette, que Depuis qu'il a fini sa commission parlementaire sur la laïcité, le ton a baissé presque automatiquement. Ouais. Je veux dire, enlève ça sur la place publique, puis tu vas voir. Là,
mais tu sais que la loi 101, en 1977, elle avait été adoptée pendant l'été. Hein? Ils avaient siégé tout l'été par une chaleur épouvantable.
Puis il y avait eu toute une passe manœuvrière, elle s'appelait la loi numéro 1. Soudainement, est devenue la loi 101.
Mais le bill 101, la loi 101, ils ont siégé en commission parlementaire, Luc, jusqu'au mois d'août, si je me rappelle bien.
Ben alors qu'ils fassent la même chose, la laïcité, si nécessaire, ou l'immigration. Si c'est pas ça qui est nécessaire, mais je veux dire qu'ils arrêtent de nous casser les oreilles. Nous, le 14 juin, tu sais, on a eu une élection l'automne passé, puis on est tous pas mal fatigués. Puis vu qu'on est fatigué, on va arrêter ça.
T'es tanné, les parages, toi,
tu trouves pas que c'est assez?
Regarde.
Tu vas en passer trois, tu leur dis. Tu dis, si vous jouez pas à la balle avec moi, si vous allez passer l'été ici.
26 août 1977, la Charte de la langue française, mon ami, la loi 101. 26 août, imagine-toi, ils ont siégé
toute
l'été.
Donc, elle avait dû être déposée en décembre précédent ou
je sais pas, janvier. Mais je vais dire une affaire. Ils ont siégé longtemps anti-pépère.
Ouais.
Fait que voilà, mon gars. Écoute, on va voir ce qui va arriver. Parce que c'est pas fini. Il reste mercredi, jeudi, ils sont en session intensive. Et après ça, toute la semaine prochaine. Sais-tu quoi? Je suis certain qu'on va en reparler.
Ça se peut, oui.
Hein, ça se pourrait,
La stime va monter un peu.
Oui, la stime va monter un peu.
Bernard.
Comme la stime a monté un peu tout à l'heure, en première heure.
C'est ça, quand tu faisais ton têteux de syndicat.
C'est ça.
Veux-tu le lire à nos auditeurs?
J'ai un auditeur qui m'a écrit.
C'était au moment où j'étais en train de le mettre à sa place, mesdames et messieurs.
Juste à la fin du segment, j'ai Pascal, visiblement un auditeur qui m'aime beaucoup, qui m'a envoyé un courriel. Têteux de syndicat Ahmad Drainville le clown. C'est assez sympathique,
non,
ça.
Non, Bernard, c'est pas moi qui ai demandé à ma fille sous un pseudonyme de t'envoyer ça. Non, ce n'est pas rédigé de ma main.
Ah ouais, il va tant têteux Ahmad Drainville. De boss, je sais pas quoi, la voix. À demain. On va parler de iTunes et de Apple au retour, l'impact que ça aura sur nos créateurs, nos artistes, avec David Bussière d'Alpha Rococo.